Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, c'est un très grand plaisir pour moi et toute l'équipe d'ouvrir un nouveau tome des Carnets du Monde aujourd'hui. Ce sera notre 15e saison ensemble. On continue, chaque dimanche on partira en vadrouille dans le sillage de nos correspondants, des journalistes de la rédaction d'Europe 1. C'est grâce à eux qu'on écoute le monde changer. Comment vit-on ailleurs? Comment travaille-t-on? Comment s'alimente-t-on? Comment se révolte-t-on parfois? Comment prend-on soin ou pas de la planète? Dans les carnets, on se pose toutes les questions possibles à travers du grand reportage, des témoignages. On décrypte aussi ce monde en transition. Au programme aujourd'hui, un premier stop en Allemagne pour participer à une grande expérience qui a eu lieu il y a quelques jours. L'idée, organiser un concert avec plein de capteurs, de mesures scientifiques, histoire de déterminer dans quelles conditions on pourrait enfin retourner devant une scène.
Je n'ai pas du tout l'impression d'être un rat de laboratoire. C'est super bien organisé, on a tous été testés avant. Évidemment, ce n'est pas tout à fait un concert comme les autres, mais on voit que ça marche, les gens sont à fond.
Toujours au chapitre du virus, on ira ensuite retrouver notre correspondante en Argentine. Là-bas, alors qu'on n'a pas encore atteint le pic de la pandémie, de plus en plus d'enfants décrochent dangereusement. Ça fait 5 mois qu'ils ne sont plus allés à l'école. Et puis nous évoquerons la Biélorussie en ébullition pro-démocratique depuis début août. Le ras-le-bol d'un système totalitaire semble avoir pris le dessus sur la peur et la répression de la moindre critique. La rédaction d'un simple blog peut avoir des conséquences dramatiques.
Les services sociaux sont venus chez nous et ont décidé que mon plus jeune frère ne devait plus vivre avec nous. Il a été emmené dans une institution d'État pour qu'il poursuive son éducation ailleurs.
On entendra des opposants exilés en Lituanie voisine et la documentariste Manon Loiseau nous racontera la résistance de l'intérieur. Elle qui a signé un des rares films sur la Biélorussie. Enfin, dernière destination, Hiroshima, 75 ans après les deux bombardements atomiques sur le Japon en août 1945. Une survivante témoigne dans les carnets du monde.
La plupart avaient des blessures et des brûlures terribles. Leur peau était en lambeaux, c'était atroce à voir. On entendait toujours ces mêmes mots qui revenaient. De l'eau, de l'eau.
Voilà pour les reportages, au programme jusqu'à 14h. Et puis bien sûr, Nicolas Caro nous rendra visite pour nous conseiller le roman étranger à ne pas louper en cette rentrée. Et puis on aura le plaisir de retrouver Joseph Chovanec, notre voyageur, chroniqueur, qui fort de son autisme partage avec nous sa perception du monde et nous aide à regarder et écouter autrement. Les carnets du monde sont ouverts, saison 15, c'est parti, direction Leipzig.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Quel étrange été que celui qui est en train de se terminer, sans concert, sans théâtre, sans festival, quasi tous annulés. Et voilà la rentrée qui s'annonce à son tour, sans culture, sans musique. Les grands événements publics en salle semblent impossibles. C'est valable aussi pour le sport en salle. Alors c'est justement pour aider ces secteurs à trouver des solutions que pour la première fois le week-end dernier, des scientifiques ont essayé de quantifier les risques exacts qui existent lors des grands rassemblements en intérieur, comme un concert ou un match de hand par exemple. Ça s'est passé à Leipzig avec des centaines de volontaires rassemblés pendant 10 heures dans la salle omnisport de la ville. Reportage signé Hélène Cole.
Tendez bien l'oreille, voici des sons d'un temps pas si ancien mais qu'on a presque oublié. Des ouvreuses, un vigile qui fait la sécurité, une annonce au micro.
Ladies and gentlemen, Arena Leipzig welcomes you.
Et surtout...
Ça m'a ému quand tout le monde s'est mis à applaudir. Le bruit d'une salle entière qui tape des mains, ça fait trop longtemps qu'on en est privé. Je vais beaucoup aux concerts ou voir des matchs et oui, ça me manque.
Cette habitante de Leipzig fait partie des 1900 volontaires recrutés pour cette étude. Pour eux, l'expérience a débuté 48 heures avant. Ils ont reçu un kit pour se tester eux-mêmes avec une vidéo expliquant comment bien faire le prélèvement au fond de la gorge. Et à leur arrivée, ils sont équipés d'un masque FFP2. Ce bip que l'on entend, c'est lorsque les organisateurs activent le petit boîtier noir que chacun doit garder autour du cou. L'appareil enregistre tous les déplacements et les contacts dans la foule.
Une fois dans la salle, votre localisation va être repérée par des bornes spéciales. Ça va mesurer qui est autour de vous. On pourra voir où vous êtes, dans le hall d'entrée ou aux toilettes par exemple, et combien de temps durent les contacts.
Cette jeune femme en t-shirt jaune fluo est étudiante en médecine à l'université voisine. Elle fait aujourd'hui la petite main pour le docteur Stéphane Moritz, infectiologue au CHU de Halle-Leipzig et qui dirige l'étude. Sur scène, micro à la main, il organise les mouvements du public pour recueillir le plus de données possible.
Vous qui êtes dans le fond, ohé, du bateau, allô. Très bien, vous pouvez vous rapprocher. Trouvez une place devant. Je vous veux bien collés les uns aux autres, bien au chaud.
Il passe aussi beaucoup de temps à expliquer le protocole scientifique qu'il va suivre, pourquoi il demande au public de refaire plusieurs fois son entrée et sa sortie de la salle, avec divers scénarios de distance et d'hygiène, pour simuler des situations différentes. Grâce au gel désinfectant phosphorescent, tous les contacts tactiles entre les gens sont repérés et quantifiés. Avec de la fumée, le docteur Moritz fait aussi une simulation de la circulation des émissions de CO2 au-dessus de la foule. En fonction du réglage de la ventilation, les chercheurs pourront modéliser la concentration des aérosols. Et puis enfin, le chanteur Tim Bensko fait son entrée.
Merci. Merci beaucoup. Merci d'être là aujourd'hui. Je crois que l'industrie musicale tout entière et tous ceux qui, sur cette planète, aiment les concerts, mais aussi les événements sportifs, sont extrêmement reconnaissants de votre aide précieuse.
L'ambiance est bonne, les volontaires ravis.
Je n'ai pas du tout l'impression d'être un rat de laboratoire. C'est super bien organisé, on a tous été testés avant. Évidemment, ce n'est pas tout à fait un concert comme les autres, mais on voit que ça marche, les gens sont à fond. J'espère qu'on aura de bonnes mesures pour trouver des solutions pour faire repartir le secteur. On travaille pour le monde entier.
Parmi les participants âgés de 18 à 50 ans, beaucoup de fans de musique ou de sport, mais aussi des artistes comme cette jeune danseuse.
Je suis venue avec l'espoir qu'on découvre qu'on n'a pas besoin de respecter les distances si tout le monde porte un masque, parce que beaucoup de salles de spectacle ne vont jamais survivre si un siège sur deux reste vide.
Il y a aussi les professionnels de l'équipe de handball de Leipzig, privés de leurs supporters depuis mars, leur directeur technique Walter Günther.
Ces manifestations publiques sont des lieux de rencontre, d'intégration, de cohésion. Mes joueurs sont des modèles et portent des valeurs de discipline, d'ambition et de fair play. Et si tout cela s'effrite, eh bien moi ça me fait peur. Ça n'a aucun sens de jouer dans des salles vides avec un stream sur YouTube. Nous ne jouons pas pour des fauteuils, nous jouons pour des êtres humains.
Coût total de cette expérience, 900 000 euros. Mais pour le ministre de l'économie du Land de Saxe-Anhalt, le principal sponsor, l'investissement en vaut la peine.
Nous devons désormais justifier nos décisions. Quand nous disons à des organisateurs qu'ils n'ont pas le droit de faire un grand concert ou un tournoi de sport, nous devons apporter des arguments. Nous avons donc besoin de cette étude. Elle est essentielle pour les décideurs politiques.
À l'issue de la journée, les scientifiques sont très satisfaits. Les données collectées sont exploitables. Premier résultat dans un mois. Leipzig, Hélène Kohl, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et bonjour Hélène.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous avez regagné Berlin. Alors on l'a entendu dans le reportage, hein, les spectateurs ont eu le droit d'assister aux concerts serrés les uns contre les autres. Incroyable. Quels sont les autres scénarios qui ont été testés ?
En fait, la journée s'est déroulée en trois blocs. Trois fois de suite, le public est entré dans la salle, a assisté à une première partie, puis il y a eu un entracte avec des boissons, passage aux toilettes, etc. Retour dans la salle, concert et évidemment à la fin... sortie de la salle pour tout ce petit monde, avec trois fois donc avec des règles d'hygiène et de distance différentes. Alors, c'est-à-dire qu'au début, c'était un concert à l'ancienne, de l'époque avant le corona, c'est ce qu'on a entendu dans le reportage. Puis ensuite, il y a eu avec un siège vide entre chaque spectateur et quatre entrées bien différentes pour éviter que les gens se mélangent. Et puis enfin, dernier scénario, les 1900 personnes étaient espacées le plus possible dans la salle de 8000 places.
La seule constante, c'était les masques FFP2 ?
Oui, pour des raisons sanitaires évidentes. Hein, même si tout le monde, les journalistes aussi, étaient négatifs, on l'avait vu avec le test, et ben, les organisateurs ont quand même n'ont pas voulu prendre de risques, évidemment. Et pourtant, malgré ça, ils ont eu du mal à trouver des volontaires. Initialement, l'étude devait avoir lieu avec 4000 cobayes. Ils étaient deux fois moins nombreux au bout du compte.
Ça en dit long sur le climat actuel en Allemagne.
Oui, alors effectivement, on sent qu'il y a de plus en plus de méfiance vis-à-vis des médecins et des spécialistes. En fait, les gens à Leipzig n'ont tout simplement pas cru les scientifiques qui leur expliquaient que le protocole sanitaire était absolument sans risque pour ce concert. Et puis l'inverse est vrai aussi, Sophie. Hein, on en parlait ensemble en juin. Il y a ici en Allemagne ce mouvement des sceptiques du corona qui doutent
de la réalité du virus, de sa dangerosité, et sur la base d'ailleurs de croyances, des croyances ésotériques ou même carrément sur la base de théories complotistes farfelues. Et c'est dans ce contexte que cette étude réalisée à Leipzig est absolument capitale, hein, parce qu'il s'agit de collecter des données fiables, des données scientifiquement incontestables pour pouvoir dire à l'avenir oui à telle ou telle manifestation publique ou non au-delà de tant de personnes, etc. Ouais. Et on pourra prouver que ces décisions sont fondées et qu'elles ne sont pas arbitraires.
Et d'ailleurs, les chercheurs de Leipzig ne sont pas les seuls à travailler sur cette question des risques de transmission.
Alors, une autre étude intéressante en ce moment, si le cœur vous en dit, Sophie, vous pouvez aller au marché de Noël. Ça se passe à Lübeck, dans le nord de l'Allemagne. Okay. La ville teste actuellement différents scénarios pour voir si ce sera possible d'avoir un vrai marché de Noël pour de bon en décembre. Sinon, il y a aussi un chercheur à l'Université technique de Berlin qui, lui, planche sur la circulation des aérosols dans les salles de classe, donc tout à fait dans l'actualité.
Ouais, j'ai vu ça, il a des résultats peu encourageants pour l'instant. D'après lui, en deux minutes, les aérosols sont présents dans toute la salle.
Oui, et donc sur l'expérience de Leipzig, sur la base de ces résultats, il n'est pas très optimiste. Il pense qu'il n'y aura pas de discipline possible dans les grands rassemblements et donc ça sera impossible de les organiser de nouveau. Mais il y aura quand même bientôt de nouvelles données disponibles en provenance de Belgique, du Danemark et d'Australie où des expériences identiques à celles de Leipzig vont être menées dans les prochaines semaines. Ça permettra de comparer les résultats et surtout, en élargissant le panel des cobayes, ça permettra d'avoir des informations plus fines et donc encore plus fiables.
Voilà, et des données scientifiques surtout pour décider de ce qui est possible de faire ou pas. Merci beaucoup Hélène de nous avoir embarqué dans cette immersion de cette expérience in situ en attendant les résultats. Donc merci, à bientôt.
À bientôt.
On parle encore du virus dans un petit instant en mettant le cap sur l'Argentine confinée depuis 5 mois et ça devient très problématique pour les enfants justement privés d'école.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
C'est presque la rentrée des classes en France, après-demain. Les écoliers français vont retrouver les salles de classe, mais ce n'est pas le cas des 10,5 millions d'élèves argentins. À cause des saisons inversées, ce n'est pas la rentrée pour eux, ils sont en pleine année scolaire. Mais l'immense majorité d'entre eux n'a pas remis les pieds à l'école depuis plus de 5 mois. Il faut savoir que dans ce pays d'Amérique du Sud, un enfant sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Alors évidemment, à cause de ce long confinement à distance de l'école, tous les petits Argentins n'ont pas pu continuer d'apprendre dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, le pic de la pandémie n'est toujours pas atteint en Argentine. Certaines régions restent confinées et les enseignants et les autorités craignent que le décrochage scolaire augmente. Voici le reportage de la correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires, Aude Villiers-Moriamé.
Les rues de Buenos Aires ont retrouvé une certaine activité. Ces dernières semaines, le confinement a été assoupli dans la capitale, mais d'importantes restrictions restent. Les réunions en famille et entre amis sont interdites et comme dans tout le pays, les écoles sont toujours fermées. Julieta, 43 ans, est maman de deux petites filles, dont une qui est en train de patiner sur une place du quartier de Palermo. Depuis 5 mois, Julieta et son mari font de leur mieux pour que leurs filles continuent d'apprendre.
C'est pas facile du tout. Il faut leur dédier beaucoup de temps parce qu'elles ont souvent des moments de déprime. Comme elles ne voient pas leurs amis et qu'elles ne font pas autant de sport qu'avant la pandémie, qu'avant le confinement. En tant que parents, on essaie d'être aussi attentif que possible. Mais je crois que cette année scolaire est un peu perdue. On n'apprend pas la même chose dans une salle de classe que chez soi, sur Zoom, après déjà 5 mois épuisants de confinement. Mais les enfants font ce qu'ils peuvent, les adultes aussi.
Un sentiment partagé par de nombreux parents, comme Lautaro, père célibataire d'un petit garçon de 5 ans.
Les cours virtuels ont pour objectif d'assurer une continuité pédagogique. Les enfants se connectent, parlent avec leurs camarades et la maîtresse afin qu'ils sachent qu'ils continuent d'être en cours, que l'école continue. Mais celui qui doit lui enseigner certaines choses ensuite, c'est moi. Et ça représente un grand effort parce que même en y mettant la meilleure des volontés, les parents ne sont pas des enseignants. Je n'ai pas les outils pédagogiques pour qu'ils apprennent comme il faut.
Lautaro a par exemple enseigné seul à son fils les rudiments de la lecture et de l'écriture. Le petit Santiago voudrait bien, lui aussi, revenir à l'école.
Ça te manque d'aller à l'école ?
Oui.
Qu'est-ce que tu préfères ? Les cours à l'école ou via Zoom ?
À l'école.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a beaucoup de jouets et j'adore ça. Il y a plein de déguisements là-bas.
Et tes amis te manquent ?
Oui, beaucoup.
La perte de ce lien social est dramatique pour la plupart des enfants. Pour tenter d'y remédier, les enseignants imaginent des stratégies qui permettent aux élèves d'échanger et de continuer d'apprendre malgré les circonstances. Julia Parodi est enseignante de primaire dans un quartier pauvre de la capitale.
Nous nous sommes rendus compte avec mes collègues que les plateformes Internet comme Zoom, que l'on voulait utiliser, auraient exclu beaucoup d'enfants parce qu'ils n'ont pas toujours accès à un ordinateur. Alors on s'est dit que la manière de toucher le plus grand nombre serait à travers un groupe WhatsApp. On crée ainsi des moments de rencontre quotidiens. On leur envoie des photos, des textes, des vidéos, des sons. Eux aussi le font. Et à partir de ça, ils acquièrent des connaissances.
En Argentine, près d'un adolescent sur cinq n'a pas accès à Internet chez lui. Une importante fracture numérique qui a poussé le gouvernement à mettre en place des programmes d'enseignement à la télévision et à la radio. En plus des cours qu'elle continue de donner sur WhatsApp, Julia Parodi enseigne une heure par jour à la radio publique.
On ne cherche pas vraiment à remplacer l'école, mais à partager des informations sur des sujets qui sont habituellement enseignés à l'école. Donc on cherche des stratégies pour transmettre ces contenus sans avoir besoin de recourir à des appuis visuels. On prend par exemple des extraits de documents télévisés, on fait des interviews avec des spécialistes, on a recours à la musique lorsque ça a un lien avec les sujets dont on parle.
Une initiative utile selon Patricia Juan Ramon, directrice exécutive de Minkai, une association qui vient en aide aux enfants originaires de zones rurales pauvres.
Pour nous, le gouvernement a réagi vite, dès le début de la pandémie et avec des outils qui peuvent toucher tous les secteurs de la société. Mais le confinement et l'isolement s'étendent bien plus longtemps que ce que nous avions anticipé. Et ce n'est plus suffisant aujourd'hui. Cela commence à être compliqué de pouvoir garantir une éducation de qualité et d'assurer la continuité pédagogique dans ce contexte.
En temps normal, seul un élève sur cinq finit le lycée en temps et en heure dans les zones rurales pauvres d'Argentine. Une situation qui risque de s'aggraver avec la pandémie.
Certaines estimations calculent que 25 à 45% des élèves pourraient être en risque de décrochage scolaire à la fin de la pandémie. La déconnexion avec l'école dont ils ont souffert durant toute l'année, la nécessité pour certains de commencer à travailler, tout cela fait que le risque de décrochage aujourd'hui est beaucoup plus important.
Les associations appellent l'État à investir massivement dans l'éducation face aux inégalités qui s'accroissent. Selon les Nations Unies, 6 petits Argentins sur 10 pourraient vivre sous le seuil de pauvreté d'ici la fin de l'année. Buenos Aires, Haute-Villiers-Moriamé, Europe 1.
Retour en studio à Europe 1 à Paris et Haute-Villiers-Moriamé est en ligne avec nous depuis l'Argentine. Bonjour Aude.
Bonjour Sophie.
On va préciser un peu avec vous la situation des Argentins qui, dans certaines régions, vivent l'un des plus longs confinements au monde. Pour les élèves, on l'a dit, hein, plus de 5 mois sans école. Les cours en présence des enfants ont été suspendus mi-mars, soit à la fin de l'été austral, ce qui correspond au début de l'année scolaire en Argentine. Est-ce qu'il y a une perspective de retour en cours prochainement pour eux?
Et non, les seuls à avoir retrouvé leur salle de classe pour l'instant, en fait, ce sont les élèves de régions très peu touchées par le coronavirus, et ils sont peu nombreux, hein, quelques milliers seulement sur les 10,5 millions d'élèves du pays. Pour le reste, pas de date, non. La mairie de Buenos Aires avait bien prévu un plan de retour à l'école très progressif, en commençant par les élèves qui présentent le plus grand risque de décrochage, mais le gouvernement s'y est fermement opposé, et il est soutenu par les syndicats d'enseignants. La prof Julia Parodi, par exemple, qu'on a entendue dans le reportage, me confiait avoir évidemment envie de retrouver ses élèves, mais pas dans ce contexte sanitaire. La courbe de nouveaux cas de coronavirus et de décès continue d'augmenter dans le pays et un retour dans les écoles risquerait d'accélérer la propagation du virus, en particulier dans les quartiers populaires et les bidonvilles.
Des quartiers, il faut le rappeler, qui sont déjà frappés de plein fouet par la crise économique et on imagine que la pandémie aggrave la situation, Aude.
Oui, le FMI prévoit par exemple une chute du PIB de presque 10% en 2020. Mais à la différence d'autres pays du monde qui sont également affectés, l'Argentine traversait déjà une grave crise économique et sociale avant même que n'arrive le coronavirus. Ça fait déjà 2 ans que le pays est en récession, hein. 2 ans que le chômage, la pauvreté et l'inflation augmentent en flèche. Et le nouveau président Alberto Fernandez, au pouvoir depuis décembre, a été empêché de mettre en place son programme de redressement de l'économie à cause de la pandémie. Plus de 40 000 commerces ont fermé définitivement leurs portes ces derniers mois. La pauvreté augmente encore et rapidement. Et lorsqu'elle affecte une majorité d'enfants, ce n'est pas très encourageant pour le futur développement du pays.
Évidemment. Sur le plan sanitaire, Aude, le gouvernement argentin a réagi très vite. Hein. Dès le 20 mars, tout le pays était confiné alors qu'il y avait qu'une centaine de cas recensés. Et pourtant, le virus s'est quand même installé au point qu'aujourd'hui, 5 mois après, l'Argentine n'a toujours pas passé le pic de son épidémie.
C'est vrai. Alors dans un premier temps, le confinement très strict semble bien avoir permis de freiner l'épidémie. D'ailleurs, l'Argentine est loin de compter aujourd'hui le nombre de morts recensés par ses voisins brésiliens ou chiliens.
On compte environ 8 000 victimes chez vous, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Mais la courbe de nouveaux cas de décès augmente depuis le mois de juin, sans doute parce que le confinement a été progressivement assoupli. Aujourd'hui, seul Buenos Aires, sa banlieue et quelques régions très touchées restent vraiment confinées. Les experts soulignent aussi qu'on est ici en plein hiver austral et que les températures plus basses eh bien, facilitent la circulation du virus, d'autant plus dans les quartiers populaires où les familles vivent entassées. Et puis certains spécialistes estiment que le nombre de tests réalisés au début du confinement n'a pas été suffisant pour pouvoir isoler tous les cas positifs. Enfin, ce long confinement n'a pas forcément été toujours respecté, soit parce que les Argentins ont besoin de travailler, notamment ceux qui ont un emploi informel, soit parce qu'après plusieurs mois d'isolement, certains ont vu leur santé mentale très affectée et ont pris la décision de voir leurs proches malgré l'interdiction.
Ben oui, 5 mois, c'est extrêmement long. Et on vous a bien entendu, Aude, c'est loin d'être fini. Merci pour ce coup de projecteur, en particulier sur le cas des enfants qui ne sont plus à l'école depuis le 20 mars. À bientôt et bon courage à vous, Aude.
Merci Sophie, à bientôt.
À suivre de la très bonne littérature étrangère, on va accueillir notre conseiller personnel, Nicolas Carreau. À tout de suite.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Dans les carnets, on apprécie ce moment de découverte littéraire depuis le temps que Nicolas Carreau nous fait l'honneur de venir nous conseiller de belles lectures d'auteurs étrangers. Bonjour Nicolas, ravi de vous accueillir.
Ben moi aussi,
à nouveau.
Je suis bien content.
Petite nouveauté, cette page culturelle des carnets, vous la partagerez désormais avec Eva Roque et Angèle Châtelier. Eva nous fera découvrir des séries télé étrangères qui sont souvent le reflet des sociétés. Et Angèle nous embarquera dans un voyage musical plein de découvertes en perspective, je me réjouis. Et donc on commence quand même avec un grand roman avec vous Nicolas. Ça y est, le voici, le voilà, le nouveau roman de Colson Whitehead est sorti.
Colson Whitehead, oui, je rappelle, avait fait beaucoup de bruit à la rentrée 2017 avec son roman Underground Railroad, l'histoire de la fuite d'une esclave aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Le Underground Railroad, c'était le nom que l'on donnait au réseau d'évasion des esclaves à cette époque. Énorme succès, on en avait parlé et reparlé, Sophie, vous vous souvenez. Ouais. Prix Pulitzer, il a mais nous, on n'avait rien à voir avec le Pulitzer. Il a publié son nouveau roman aux États-Unis intitulé Nickel Boys et boum! Deuxième prix Pulitzer, ce n'était arrivé que 2 fois dans l'histoire de la littérature pour William Faulkner et John Updike. Donc bon, il y a un petit peu de niveau. Il a été repoussé, le confinement est passé par là aussi, mais le voilà en français. Nickel Boys chez Albin Michel est disponible en librairie.
Alors ça veut dire quoi Nickel Boys ?
Alors la Nickel Academy dans le roman, c'est une institution, une maison de correction en fait, mais présentée plutôt comme un internat, une sorte d'école pour délinquants si vous voulez, mais on n'y entre pas tout de suite. Au début du livre, nous sommes du côté de Tallahassee, en Floride, donc au sud. On suit la vie d'un jeune garçon noir, 12-13 ans, au début des années 60. Il s'appelle Elwood Curtis. Il est très attachant. On ne peut pas dire qu'il a eu beaucoup de chance pour l'instant. Ses parents l'ont plus ou moins abandonné. Ils l'ont laissé avec sa grand-mère. Alors ça, c'est quand même la bonne nouvelle. C'est que la grand-mère d'Elwood, elle est adorable. Elle adore son petit-fils. Elle est un peu old school, mais voilà, c'est quelqu'un de très aimant. Il ne vit pas non plus dans la misère, mais ce n'est pas facile tous les jours quand même. Mais surtout, Elwood a compris que s'il voulait s'en sortir, il fallait qu'il travaille à l'école. Et un jour, il tombe sur le premier volume d'une encyclopédie dont il n'a que les A. Mais il dévore le livre de long en large. Il adore apprendre tout le temps et se passionne aussi pour la lutte pour les droits civiques, parce que sa grand-mère justement lui a offert un vinyle. Alors il écoute en boucle notamment les discours de Martin Luther King. Le contexte du livre est très important. Je laisse l'éditeur spécialiste de littérature américaine, Francis Geffard, nous le rappeler.
On est dans le sud des États-Unis et le sud a une histoire très particulière, à la fois dans l'histoire plus large des États-Unis, mais surtout dans la question raciale. Et le roman se déroule effectivement à cette période très particulière de la lutte pour les droits civiques, au moment où les Noirs, secouent leur chaîne et appellent à plus d'égalité, à plus de justice dans ce vaste mouvement qui fait suite à la Seconde Guerre mondiale où énormément de Noirs avaient pris part. Voilà, chacun revient avec à la fois la possibilité de suivre des études via le GI Bill et puis aussi ils ont vu le monde plus vaste. Ils aspirent à la démocratie, à la liberté, à la justice.
Et donc, Elwood va être victime de racisme ?
Alors, pas directement, mais je vous la fais courte. Il travaille si bien, il est tellement sérieux qu'il obtient une bourse pour rejoindre une université tout frais payé. Super, mais sur le chemin, le premier jour, C'est une scène incroyable, je ne vous la raconte pas, il est victime d'une erreur judiciaire, vous verrez laquelle. Et il est envoyé directement à Nickel. Au début, quand il arrive, il respire un peu, il s'en était fait une montagne, il disait qu'il partait dans une prison atroce et tout ça, et il s'aperçoit en arrivant que c'est une simple école. Or, il adore l'école, mais il va vite déchanter. Je ne vais pas trop déflorer le roman, donc je ne vous raconte pas la suite. Je vais plutôt vous raconter la véritable histoire, pas la fiction. En fait, Colson Whitehead a imaginé son récit à partir d'un fait réel. Francis Jeffer.
Elle s'inspire d'une école qui, elle, a vraiment existé et qui a été en usage pendant plus d'un siècle en Floride, qui s'appelait la Dozier School for Boys. C'était finalement une maison de correction chargée de remettre les délinquants sur le droit chemin. Et on savait déjà qu'il y avait eu pas mal d'abus physiques, sexuels sur les pensionnaires de cette Dozier School for Boys, mais finalement, c'est seulement au début des années 2010 quand l'école a été fermée en 2011 et ensuite il y a eu une vaste opération immobilière et c'est à ce moment-là qu'on a découvert à côté du cimetière officiel une sorte de charnier où on s'est rendu compte que des jeunes avaient été enterrés sans que leur mort soit rendue officielle.
C'est incroyable cette histoire, cette école qui a fermé qu'en 2011 et donc Colson Whitehead a construit son roman pour essayer de donner corps à une hypothèse qui explique cette découverte.
Absolument. C'est pas une enquête, c'est pas de l'histoire, hein, mais c'est l'itinéraire de ce garçon et de certains de ses camarades de la Nickel Academy. C'est un roman incroyable, haletant. C'est un Pulitzer.
Un Pulitzer, Nickel Boys, donc chez Albin Michel. La traduction est de
Charles Recourcet, grand traducteur.
Ça donne très envie de le lire. Merci beaucoup, Nicolas. Et juste après les carnets, vous réattaquez une belle saison de La Voix et Livres, donc vous restez dans le coin.
À tout à l'heure.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
C'est un mouvement de contestation qui ne faiblit pas depuis l'élection présidentielle du 9 août. Des centaines de milliers de citoyens biélorusses descendent dans les rues. Ils dénoncent un scrutin pipé et rejettent la réélection d'Alexandre Loukachenko. 26 ans déjà qu'il est au pouvoir à Minsk. Les protestataires ont été réprimés par la force. Malgré tout, beaucoup continuent à manifester. Et la principale opposante, Svetlana Tikhanovskaya, garde confiance dans le changement en cours. Elle le disait jeudi matin sur Europe 1.
Je veux leur dire que je suis très fière d'eux. Et je leur demande de ne pas abandonner. Parce que je suis sûre que ces manifestations nous mèneront à la victoire. Il ne sait plus quoi faire.
Il ne contrôle plus le peuple. Et nous n'avons plus peur.
Il sait évidemment le président Loukachenko et c'est depuis Vilnius, la capitale lituanienne où elle est réfugiée, que s'exprimait Svetlana Tikhanovskaya. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous revenez justement de Vilnius, vous aussi, où vous avez pu rencontrer pas mal d'opposants à Loukachenko, parce qu'une importante communauté biélorusse vit là-bas en exil et c'est presque une base arrière qui vit cette révolution par procuration.
Oui, ils ne sont qu'à 35 km pays. Pour ceux qui vivent à Vilnius, c'est tout près. On y va en une petite demi-heure en voiture et... Ces Biélorusses, ils font tout pour montrer leur solidarité. Ils manifestent chaque jour devant l'ambassade du Bélarus en Lituanie, avec leur drapeau rouge et blanc. Parfois, ils sont une poignée, parfois, ils sont plus nombreux. C'est un peu au gré de l'importance des manifestations à Minsk, avec les mêmes slogans. Tikhanovskaya, notre présidente, Bélarus libre. Et ils insistent sur ce manque de liberté. S'ils vivent en exil, c'est aussi pour témoigner de ce que vivent ceux qui sont restés au pays. Alena évoque une pression permanente par le travail.
Ce régime ne donne pas la possibilité à ses citoyens de vivre avec un salaire décent. Les revenus sont très bas. Prenez l'exemple de ma maman. Elle vient d'apprendre qu'elle doit réduire son salaire, mais en travaillant plus. Mais si elle s'en plaint, si elle dit un seul mot, elle sera virée et il y aura 10 personnes qui voudront la remplacer pour gagner à peine 150 ou 200 euros.
Pression par le travail et le droit du travail en Biélorussie, avec beaucoup de guillemets, c'est aussi un moyen de pression.
Oui, le contrat de travail particulièrement. Il n'y a pas de CDI en Biélorussie, il faut le savoir ça. Ce sont des contrats de 5 ans. Et si vous êtes vu dans des manifs, votre patron peut réduire ce contrat à 1 an ou même vous virer sur le champ. Encore plus pervers, ce contrat de travail est souvent lié à un prêt immobilier fait par l'employeur. Et si vous êtes licencié, il faudra soit payer l'intégralité du prêt, soit rendre les clés de l'appartement.
Alors que vous ont dit les Biélorusses que vous avez rencontrés sur l'état de leur liberté, enfin dans leur pays ?
Tout tourne globalement autour de la liberté d'expression, ouais. La liberté de manifester, la liberté de la presse. Évidemment, comme il n'y a pas de journaux indépendants, ce sont les responsables de journaux en ligne qui trinquent le moindre critique du pouvoir et c'est la prison assurée. Même si vous avez une chaîne YouTube ou un blog, ça peut entraîner des sanctions sur vous et sur votre famille. Slava tenait un blog en Biélorussie et il a fait l'amère expérience d'une des sanctions possibles.
Les services sociaux sont venus chez nous et ont décidé que mon plus jeune frère ne devait plus vivre avec nous. Il a été emmené dans une institution d'État pour qu'il poursuive son éducation ailleurs.
Malheureusement, ce n'est pas uniquement lorsque vous critiquez le pouvoir. C'est quand le pouvoir pense qu'il peut y avoir un soupçon d'une image négative du pays qui peut être donnée. Olga dirige une ONG. Elle a récemment été alertée sur le cas d'une jeune documentariste.
Elle faisait un simple reportage sur le coronavirus. C'est tout. Elle travaillait sur les gens malades. Elle faisait de simples vidéos.
Just make a video.
Sans aucune vraie analyse ou critique. Elle allait dans les lieux où les personnes étaient testées. Ses angles étaient plutôt neutres. Elle voulait savoir aussi combien de personnes étaient touchées par le virus. Et ça a suffi pour la faire emprisonner.
Ah, prison, amende, pression sur la famille et même la torture, hein, comme on a pu le voir depuis le scrutin du 9 août.
Oui, et tout ça, ça imprime les esprits. Ce serait comme avoir l'impression que quelqu'un guette le moindre de vos faux pas avec une contrainte supplémentaire. C'est le flou sur les motivations de la police, un flou que décrit Sima Fey, un étudiant exilé à Vilnius.
In Belarus, or some kind of line.
Au Bélarus, il y a certaines lignes rouges. Quand vous les franchissez, vous comprenez la brutalité de ce régime. Le problème, c'est que vous ne savez pas où sont ces lignes à ne pas franchir. C'est inscrit dans votre subconscient. Et c'est présent pour toute votre vie.
Et c'est ça qui est terrible, car tous les Biélorusses que j'ai rencontrés le disent, ça vous poursuit. Mmh. Même lorsqu'ils sont en sécurité en Lituanie, ils gardent ancré au fond d'eux ce sentiment qu'ils vont être punis s'ils ne restent pas dans le rang.
Ouais, mais donc peut-être quelque chose est-il réellement en train de changer, hein ? On n'a plus peur, disait Svetlana Tikhanovskaya cette semaine. Merci beaucoup Jean-Sébastien de nous avoir permis d'entendre ces témoignages. On va écouter maintenant Manon Loiseau qui est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes documentariste et auteur réalisatrice, notamment d'un film qui s'appelle « Biélorussie, une dictature ordinaire », diffusé il y a 2 ans, mais qu'on peut revoir sur le site d'Arte en ce moment et qui n'a pas pris une ride tant rien ne bouge dans ce pays. Cette pression permanente, cette surveillance qui imprime les esprits, comme le disait Jean-Sébastien à l'instant, vous nous les montrez très bien dans votre film. C'est vraiment encore une autre époque là-bas, hein.
Complètement. On a l'impression d'une plongée dans une époque révolue, en Union soviétiste. Tout semble figé. Il y a ces énormes allées, les statues de Lénine, ces fêtes nationales, des policiers. On sent une présence policière extrême. Et en même temps, on ne voit jamais où est la ligne rouge, mais on sait que le danger peut émerger à n'importe quel moment. En fait, les gens que j'ai rencontrés là-bas me disent qu'en fait, ils ont appris à vivre avec la peur. Mais on ne sait jamais à quel moment la répression peut commencer.
Alors justement, des opposants déterminés, incroyablement courageux, sont restés dans le pays, en Biélorussie. Il y en a encore beaucoup, ils ne sont pas tous à Vilnius. Et ils sont aujourd'hui, on les voit en tête des manifs à Minsk. Ce sont les mêmes que ceux que vous nous avez fait rencontrer dans votre film.
Absolument. D'ailleurs, c'est assez incroyable de les voir aujourd'hui, parce que, en tête de cortège, puisque nous, quand on a filmé pendant 2 ans et demi, entre 2015 et 2017, il y avait 150 à 200 personnes dans les manifestations qu'ils osaient organiser. Mmh. Et il faut bien voir que nous, à chaque fois qu'on y allait, ils étaient une fois sur deux en prison. Nicolas Statkevitch, qui est un des leaders de l'opposition, disait que ces dernières années, il a passé la moitié de sa vie en prison. Ouais. Et sa femme à l'attendre. Et la présence des femmes m'a toujours frappé. D'ailleurs, c'était de voir ces trois femmes à la tête du mouvement depuis plusieurs mois maintenant. Ouais. Ce que j'avais ressenti, c'est que les femmes, elles ne font pas qu'attendre leur mari, elles continuent aussi le travail.
Et il y a une autre femme, d'ailleurs, c'est la prix Nobel de littérature, hein, Svetlana Alexievitch, qui a été interrogée cette semaine par la police et qui a refusé de parler.
Absolument. Et Svetlana Alexievitch, nous, on l'avait rencontrée à l'époque. Elle ne voulait pas s'associer à l'opposition, parce que c'est c'est le prix Nobel de littérature. Elle a une vraie portée intellectuelle. C'est quelque... Mais là... elle est dans ce conseil donc de conciliation, mais elle est arrivée avec, très symboliquement, avec un bouquet de fleurs et a refusé de répondre aux questions en disant qu'elle ne se sentait coupable de rien.
Alors le conseil de coordination, c'est cet organe qui a été mis en place, qui est destiné à promouvoir une transition pacifique du pouvoir et dans laquelle les opposants s'investissent, quoi.
Absolument. Alors après, pour l'instant, Loukachenko refuse tout dialogue avec eux. D'ailleurs, tous les membres du Conseil sont harcelés, leurs familles vont être menacées. Enfin, c'est quelque chose qui dure à chaque fois qu'il y a des mouvements de contestation. En 2010, il y avait eu un énorme mouvement de contestation. Il y avait des centaines de milliers de personnes, pareil, qui étaient sorties dans la rue. Et il y a eu des milliers et des milliers d'arrestations, plus de 700 peines d'emprisonnement très lourdes, dont Alef Galitsky, qui dirige l'ONG Vesna, qui se bat pour les droits de l'homme depuis des années et aide les familles de détenus. Voilà. Et en même temps, quelque part, je pense que depuis 2010, quand on entend Svetlana Tikhanovskaya qui dit « on n'a plus peur », c'est vraiment ça. On sent que c'est une nouvelle génération. Et quelque part, que peut-être que Alexandre Loukachenko n'a pas mesuré que finalement, cette génération-là n'a plus peur, qu'on ne peut pas maintenir comme ça, sous une chape de plomb, les enfants de 2010 et avec leurs parents. Et quand on a vu tous ces... Voilà, ces cortèges et ces manifestations qui continuent à mobiliser autant de personnes, on sent que le mouvement va durer. En plus, c'est un mouvement social. C'est un mouvement qui, maintenant, gagne les usines. Et il faut bien voir que c'est un ancien chef de kolkhoz, Loukachenko. Il a toujours eu un discours très populiste, très proche des paysans et des ouvriers. Et là, cette base, elle est en train de s'effriter.
Comme si ça ne prenait plus.
Et comme si ça ne prenait plus.
Merci beaucoup, merci Manon Loiseau de nous avoir éclairé un peu sur ce pays extrêmement fermé. Personne ne peut y rentrer aujourd'hui, ni vous, ni d'autres journalistes, même ceux qui sont en poste à Moscou. Je rappelle le titre de votre film, Biélorussie, une dictature ordinaire, qu'on peut voir sur le site d'Arte. Merci Manon Loiseau, à bientôt.
Merci à vous.
Et merci à vous, Jean-Sébastien Soldaini.
Merci, à bientôt.
Dans quelques instants, c'est au Japon qu'on vous emmène. Début août, là-bas, on se souvenait de l'explosion de la première bombe atomique de l'histoire. C'était il y a 75 ans. Vous allez entendre une rescapée d'Hiroshima.
Les Carnets du Monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Pour cette première émission de la rentrée, on a choisi de revenir sur un moment marquant de ce mois d'août. C'était le 6 août au Japon. Une prière silencieuse s'est tenue à 8h15 pile. À Hiroshima, l'heure précise à laquelle, 75 ans plus tôt, la première bombe atomique de l'histoire était larguée sur la ville japonaise. Au début du mois, donc, le pays entier s'est recueilli en mémoire des 140 000 victimes d'Hiroshima, plus du tiers de la ville, et des plus de 70 000 autres tués trois jours plus tard avec une seconde bombe larguée sur Nagasaki. 136 700 survivants de l'époque vivent encore aujourd'hui. Et dans les carnets, on a choisi de vous faire entendre le témoignage d'une survivante. En août 45, elle avait 8 ans. Elle en a 83 aujourd'hui. Bonjour Bernard Delattre.
Bonjour Sophie.
Vous êtes notre correspondant à Tokyo et c'est vous qui avez recueilli le témoignage de Keiko Ogura. C'est le nom de cette femme qui était à moins de 2,5 km du point d'impact de la bombe A tombée sur Hiroshima. Elle en a réchappé et ça tient vraiment du miracle.
Oui, car vous le disiez, la bombe a explosé à 8h15 du matin, c'est-à-dire au moment où d'habitude la petite fille était à l'école. Or, son école a été complètement dévastée le 6 août 45. Tous ses camarades de classe ont été tués. Mais ce jour-là, pour la première fois de sa vie, Keiko Ogura a manqué la classe à la demande de son père. C'est ça qui lui a sauvé la vie. Je vous propose d'écouter son récit.
La nuit du 5 au 6 août, on a tous dormi dans un abri anti-aérien. Les avions américains n'arrêtaient pas de survoler la ville. À mon réveil, mon père m'a dit « Keiko, tu ne vas pas à l'école aujourd'hui. Ce n'est pas prudent. J'ai un mauvais pressentiment. » Je n'avais jamais vu mon père aussi inquiet. J'étais en train de regagner la maison quand tout à coup, à 8h15, il y a eu une énorme explosion et une lueur blanchâtre métallique a traversé le ciel. Un souffle terrible m'a projeté à terre. Ma tête a heurté un rocher et je me suis évanouie. Quand j'ai repris connaissance, tout autour de moi était dévasté. Des maisons en bois avaient volé en éclats, des arbres avaient été déracinés par la déflagration. Ça commençait à brûler un peu partout. On n'entendait pas un bruit, comme si le monde s'était arrêté. Il faisait très sombre aussi, alors qu'on était en plein jour. J'étais hébétée, incapable de me relever. Ensuite, j'ai entendu quelqu'un appeler « Maman, maman !» C'était mon grand frère qui arrivait en courant à la maison. Ce matin-là, il travaillait dans un champ pas loin de chez nous. Il m'a dit avoir vu un B-29 larguer une bombe, puis un nuage horrible en forme de champignon s'élever dans le ciel. Et il a fondu en larmes. Il a crié « Keiko, toute notre ville brûle !» Hiroshima est dévastée. En l'écoutant, j'étais terrifiée.
Un récit très précis et terrible hein, de cette femme. Bernard, beaucoup d'habitants sont morts sur le coup hein, ce 6 août.
Oui, et les autres, souvent très grièvement blessés, ont essayé, dans la panique générale, de quitter la ville ravagée. Keiko Ogura a des souvenirs très précis des heures qui ont suivi le bombardement.
Les habitants se sont mis à fuir le centre-ville, beaucoup se dirigeant vers notre quartier au pied de la montagne. La plupart avaient des blessures et des brûlures terribles. Leur peau était en lambeaux, c'était atroce à voir. On entendait toujours ces mêmes mots qui revenaient. De l'eau, de l'eau. Deux de ces blessés sont morts sous mes yeux, en buvant de l'eau que je venais de leur apporter. Il ne faut jamais donner à boire à des grands brûlés, ça peut leur être fatal. Mais je ne l'ai su que bien plus tard. À l'époque, je l'ignorais, je n'étais qu'une enfant. Donc en croyant bien faire, j'ai tué ces hommes que j'essayais d'aider. J'en ai fait des cauchemars pendant des années. Les jours qui ont suivi le bombardement, une fumée noire a recouvert la ville tellement il y avait de bûchers funéraires érigés un peu partout. Rien qu'en deux jours, dans le petit square à côté de chez nous, on a dit adieu à 700 habitants du quartier.
Keiko Ogura a évidemment été marquée à vie par ce bombardement. Mais après de nombreuses années, sa souffrance a fini par s'apaiser, ses cauchemars ont cessé. Mais vous allez l'entendre, il y a une grande colère en elle.
Beaucoup de gens que j'aimais ont été tués par la bombe, ou alors plus tard, comme mon grand frère, par des maladies dues aux radiations atomiques. Pourquoi je ne suis pas morte, moi, ce jour-là? Pourquoi je n'ai pu sauver personne? Ces deux questions m'ont longtemps hantée. J'ai énormément culpabilisé d'avoir survécu. Aujourd'hui, les armes nucléaires n'ont toujours pas été abolies. Ça me terrifie, ça me désespère. Et le Japon lui-même s'oppose à leur interdiction alors qu'il en a été victime.
Elle est extrêmement touchante, hein. On entend qu'elle porte cette culpabilité depuis son enfance. D'autant que les rescapés, les survivants, Bernard, n'ont pas été bien traités hein, dans les années qui ont suivi, n'est-ce pas?
Non, effectivement. Et la reconstruction de Keiko Ogura aurait été plus facile si elle avait pu parler à quelqu'un de ce qu'elle avait vécu. Mais pendant très longtemps, elle a dû se taire.
Comme tous ceux qui ont survécu au bombardement, pendant très longtemps, je ne me suis confiée à personne. D'abord, sous l'occupation américaine, nous étions réduits au silence par la censure militaire. La bombe A, c'était le sujet tabou par excellence. À la fin de l'occupation, nous avons nous-mêmes choisi de nous taire afin de ne pas être stigmatisés. Réclamer des aides financières de l'État en tant que rescapés, c'était mal vu. Les gens trouvaient qu'on devait se débrouiller seul. Ils assuraient qu'on mettrait au monde des enfants en mauvaise santé. Cela explique pourquoi beaucoup de rescapés des bombes A ne se sont pas mariés. Moi, j'ai réussi, mais tout au long de ma grossesse, j'ai été rongée par l'angoisse. Mes enfants allaient-ils naître normaux? N'allaient-ils pas finir par avoir un cancer ou une leucémie à cause de moi? Je veux dire, du fait des radiations atomiques que j'avais subies lors du bombardement? Aujourd'hui encore, c'est une source permanente d'inquiétude par rapport à mes petits-enfants. Les armes nucléaires impactent non seulement la santé des personnes qui en ont été victimes, mais aussi potentiellement celle de leurs descendants. C'est un peu comme un fardeau, une épée de Damoclès qui condamne à l'angoisse des générations entières, ce qui rend ces armes absolument inacceptables sur le plan moral.
Bernard, on entend bien hein, la détermination de cette dame et sa colère que 75 ans plus tard, les armes nucléaires n'aient toujours pas été abolies.
Oui, c'est vraiment le combat de sa vie. Témoigner sans relâche de ce qu'elle a vécu afin que le monde n'oublie jamais ce qui s'est passé ce jour-là et faire en sorte qu'une telle horreur ne se reproduise plus, donc obtenir l'interdiction de ces armes nucléaires si destructrices.
Alors c'est l'objectif du traité qui a été voté il y a 3 ans aux Nations Unies, mais il n'est toujours pas entré en vigueur. Trop peu d'États l'ont ratifié et de toute manière, les puissances nucléaires dont la France s'opposent à ce texte.
Oui, et c'est aussi le cas du Japon qui est pourtant le seul pays du monde à avoir été dévasté par le feu atomique. Tokyo estime que face aux menaces chinoises et nord-coréennes, il ne peut absolument pas se passer de la protection du parapluie nucléaire de son puissant allié américain. Cette vision des choses désespère et ulcère évidemment les rescapés des bombes A. Pourtant, une grande majorité des Japonais, près de 7 sur 10, veulent que Tokyo ratifie ce traité de l'ONU. Mais le gouvernement ne veut rien entendre, surtout ne pas fâcher le grand ami Donald Trump. Et il y a peu de, chances que ça change si en novembre, Joe Biden était élu à la Maison-Blanche. Car la dissuasion nucléaire, c'est vraiment le pilier de l'alliance de défense américano-japonaise qui détermine une bonne partie des équilibres géopolitiques de la région Asie-Pacifique.
Merci beaucoup Bernard pour ce décryptage et puis surtout de nous avoir permis d'entendre ce témoignage très fort hein, sur cette journée du 6 août 45. À très bientôt dans les carnets.
Merci à vous Sophie, à très bientôt.
Voilà, et c'est un amoureux du Japon, tiens, qu'on va appeler maintenant. Vous le connaissez bien, depuis 5 ans, il nous fait découvrir une contrée étrange et passionnante, l'Autistan. Joseph Chovanec sera avec nous dans un petit moment.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Il est de retour parmi nous, ou presque parmi nous, puisqu'il est encore en vadrouille, mais en ligne, fidèle au poste. Joseph Chovanec, bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent depuis 5 ans déjà. Vous êtes le plus voyageur de nos chroniqueurs, et également philosophe, également autiste Asperger, ce qui vous permet de porter un regard singulier sur le monde. Et donc avec vous, chaque dimanche, on fera une petite balade en Autistan. Habituellement, l'été, vous partez au bout du monde. Ça a dû être plus compliqué cette année, Joseph, avec la pandémie.
Mais Sophie, le vrai voyage se passe dans la tête. Il est intellectuel et ravi d'être de retour dans l'aventure des carnets. Cet été, on a beaucoup parlé de la possibilité de voyager en contexte de Covid. Et on a cherché des lieux de villégiature près de chez soi. Il est vrai que la canicule aidant, presque n'importe quel endroit en France se mue en plage tropicale.
Je vous imagine pas trop sur une serviette sur une plage. Je sais pas pourquoi.
Oui, les vacances ne consistent pas à recevoir une grosse dose de photons sur la peau. Voyager, cela permet de se construire un trésor de souvenirs fondamentaux, de se construire en tant que personne. Et ces dernières années, j'ai beaucoup réfléchi au rôle qu'ont joué les voyages de mon enfance avec mes parents. Ce n'était pas juste des vacances au sens de l'interruption du travail. Ces voyages d'enfance sont devenus le socle de qui je suis. Et donc cet été, je suis reparti dans l'un de ces voyages d'exploration des souvenirs.
Génial. Où était-ce alors?
Mais c'est très simple. Pendant mon enfance, pour la Noël 87, mes parents avaient été invités par des amis en Suède. J'avais à peine 6 ans. Depuis, je n'avais pas remis les pieds en Suède. L'idée, en allant à nouveau en Suède cet été, consistait à voir ce dont je me souvenais encore.
Et alors, c'est revenu?
Et je pense que les enfants, ou surtout enfantistes peut-être, ne regardent pas du tout ce que l'on pense qu'ils regardent. Par exemple, je n'avais gardé rigoureusement aucun souvenir du parc d'attractions par excellence pour les enfants et les familles de Stockholm, le fameux Skansen. Autant dire à mes parents que c'est autant d'argent dépensé en pure perte que d'aller dans les parcs d'attractions. Ou alors, c'est surtout destiné à faire plaisir aux parents.
Autre enseignement de ce voyage quasi mémoriel.
Deuxième leçon. Les enfants se souviennent bien des moments difficiles, des moments où leurs parents étaient en difficulté. En 1987, à l'arrivée dans la gare centrale de Stockholm, après un très long trajet en train depuis Paris, mes parents avaient voulu m'acheter à manger. Ils avaient appris quelques mots de suédois, mais sans doute pas assez. En fin de compte, ils n'avaient réussi à m'acheter qu'un peu de soppa, donc soupe chaude. Je me souviens parfaitement de la gêne de mes parents, alors qu'au fond, la soupe me convenait très bien. Et cet été, j'ai retrouvé l'endroit de la soupe. C'est désormais un McDo. Heureusement que la déco est restée. Troisième leçon. Les enfants, ça a l'air bête, mais on l'oublie, voient le monde de leur hauteur. Ouais. Et cette perspective est très différente entre 80 cm de hauteur par rapport au sol et mettons 1m90. Oui. Et logiquement, je me souvenais bien du sol du musée historique de Stockholm, mais beaucoup moins des objets exposés.
J'espère que le sol est joli.
Ah mais déco suédoise oblige bien sûr. Quatrième leçon, les enfants adorent les discours savants. Peut-être qu'ils ne comprennent pas tout, mais ils se souviennent bien de l'ambiance générale et ils essaieront de comprendre plus tard. Ils garderont en mémoire que tel guide dans tel musée était passionnant. Enfin et surtout, grâce au voyage de Noël de mes parents, la Suède n'est pas menaçante pour moi. Elle fait quasiment partie de mon chez-soi.
Voilà un bel éloge du voyage et je vous reconnais bien là. Mais il faut avouer qu'en ce moment, Joseph, c'est compliqué de prévoir un voyage ou même une petite virée, d'autant plus avec des enfants.
Oui, et peut-être qu'à cause du Covid, si les restrictions de circulation durent des années, les souvenirs des voyages lointains qu'on aura pu faire naguère deviendront de plus en plus précieux. Peut-être que dans 10 ans, ceux qui avaient pu voyager seront jalousés, un peu comme quand, pendant les régimes communistes, ceux qui avaient pu voyager durant l'entre-deux-guerres suscitaient des mouvements de foule quand ils se mettaient à compter leurs voyages en Suisse, en Autriche. Nos voyages seraient-ils notre trésor le plus précieux? En tout cas, ils sont notre identité. Ils sont ce que nous sommes.
Et merci de partager les vôtres avec nous, Joseph, depuis toutes ces années. On vous retrouvera donc chaque dimanche dans les Carnets du Monde. On fermera l'émission ensemble par une petite vadrouille du côté de l'Autistan. Je suis ravie d'attaquer cette nouvelle saison avec vous, Joseph. À la semaine prochaine.
À tout bientôt. Merci.
Et voilà, c'est l'heure de refermer ces premiers carnets de la saison. Merci de nous avoir accompagnés. Sachez que vous pouvez nous écrire. Si vous vivez à l'étranger notamment, n'hésitez pas à partager avec nous votre regard sur le pays où vous êtes. Voici notre adresse mail, c'est très facile, lescarnetsdumonde@europe1.fr. Nicolas Carreau est dans les starting blocks. La voie est libre, c'est juste après les infos de 14h. Quel est le programme pour cette première?
Alors, je reçois Miguel Bonnefoy, qui est une sorte de virtuose, un jeune auteur, qui est un peu le fils spirituel de Garcia Marquez, vous voyez un peu.
Rien que ça.
C'est une fresque chilienne, vous allez voir, c'est génial. Et puis, nous visiterons la bibliothèque de Tatiana de Ronay.
Super,
c'est
merci.
Chouette, hein.
À tout de suite, Nicolas.
À tout de suite.
Et merci à Marc Fréjean qui a réalisé ces carnets, à Florence Gimalac qui m'a aidé à les préparer. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, dès 13h. On compte sur vous. Et d'ici là, portez-vous bien.